Ricardo Palma Salamanca, c'est un homme qui doit faire 1m75, je pense, qui présente assez bien, qui a les cheveux courts, un peu grisonnants, qui a un regard assez intense, qui a une bonne gueule. Il m'avait donné rendez-vous en me disant avant d'écrire ton article, je veux te rencontrer, je veux qu'on voit ce que tu veux exactement et je veux qu'on en discute. Et donc là, j'arrive, j'ai l'impression qu'il attendait, qu'il m'a observé un petit peu, et je vois un mec qui est assez fermé, qui a la poignée de main assez froide. Je pense qu'il se méfiait un peu. Sa situation n'était pas encore réglée. Et donc on a été dans un café de Saint-Mandé où il a commencé à me raconter son histoire. Et voilà.
Ricardo Palma Salamanca et Badeavi. Premier épisode, une jeunesse sous Pinochet.
Mi nombre es Ricardo Palma.
Je m'appelle Ricardo Palma.
Nací en Santiago de Chile en el año 1969.
Je suis né à Santiago en 1969.
Santiago de Chile hasta el año 97.
J'y ai vécu jusqu'en 1997.
Mi infancia fue fundamentalmente una infancia tranquila, una infancia.
Je dirais que j'ai eu une enfance
tranquille,
plutôt tranquille.
Sentido, porque
enfin tranquille dans un certain sens.
Era un tiempo conflictivo.
Car j'ai grandi sous la dictature
Entonces,
no à une époque de conflit.
Relativamente una infancia normal, sino más bien una infancia con,
Donc,
con un cierto
ça n'a pas été une enfance normale, mais une enfance
temor.
Marquée par la peur.
Una familia bastante particular.
J'ai une famille assez particulière.
Profesores.
Mes parents étaient tous les deux professeurs de sport.
Luego mi padre se convirtió en policía antes del año 73.
Puis avant 1973, mon père est devenu policier. Il faisait partie de la garde rapprochée de Salvador Allende.
De maestra, de profesora.
Tous les deux étaient communistes.
Ambos comunistas. Entonces cuando llega este
Donc à partir du moment où le Chili plonge dans la dictature,
la dictadura y quiebra el orden democrático,
mes parents deviennent évidemment des cibles, ils sont persécutés.
De alguna forma fueron determinando
Ils ont eu une influence certaine sur le destin de leurs enfants.
De sus propios hijos. Yo tengo dos hermanas.
J'ai deux
fueron,
sœurs et toutes les deux ont été militantes communistes pendant leurs études.
Entonces, desde ese punto de vista, la infancia, en un principio dije que era...
Donc je peux dire que j'ai eu
une infancia normal,
dans le sens où j'étais un enfant comme les autres, qui jouait avec ses amis, etc.
Con sus amigos. Pero a medida que fui creciendo, fui viendo
Mais en grandissant, j'ai connu les phénomènes de la peur et de l'injustice.
De esta injusticia, sobre todo por un discurso familiar que era alimento de todos los días. Y que me fue viendo,
et tout cela,
me
en plus du discours familial que j'entendais tous les jours, m'a fait voir la réalité
distinta.
Sous un autre angle.
Je suis Maria Paz Santibanez, pianiste, concertiste, j'enseigne aussi dans un conservatoire parisien. Et je connais Ricardo à travers des amis et à travers les infos de la presse qui disaient qu'un ancien guerrillero chilien s'était pointé en France pour demander l'asile. C'était début 2018. Je ne connaissais pas tous les détails, mais je savais que Ricardo, il avait fait la prison. Je savais parfaitement que lui, il avait donné une confession sous torture. Et s'il rentre au Chili, il va être lynché. Et ça m'est traversé l'esprit, l'âme. Je me disais, non, personne ne mérite de faire de la prison s'il a dit, moi, je fais ceci ou je fais cela pendant qu'il est torturé. Je pense que Ricardo, il appartenait à des groupes qui, historiquement, dans le Chili des années 80 particulièrement, ont essayé d'accompagner tous les gens démocrates et qui cherchaient la démocratie au Chili. Et la répression était féroce. Du coup, eux, ils avaient un rôle assez important. Des protections des manifs. Ils faisaient des actions armées. Il y a les droits de rébellion, on va dire, et même les droits d'agir contre les tyrans. Et donc, j'admirais beaucoup, beaucoup ce qu'ils avaient fait.
Archive INA, 1973.
Patrick Poivre d'Arvor présente Intersoir.
La marche vers la révolution dans la légalité est terminée au Chili. Ce n'est pas la révolution qui a triomphé, c'est le président Salvador Allende qui a été obligé de céder la place à l'armée. Le coup d'État, commencé par la marine et bientôt renforcé par l'armée de l'air et les fantassins, semble avoir réussi. Les radios aux mains des militaires, qui sont les seuls à pouvoir émettre...
La casa familiar era muy próxima a la casa particular del presidente.
Ma famille et moi vivions très près de la résidence personnelle du président Allende.
De los puntos de,
Donc je me souviens très bien des bombardements de l'aviation chilienne le jour du coup d'État.
Operaron aquel día. dos aviones Hawker Hunter que pasaron por encima del barrio.
Deux avions de chasse ont survolé le quartier et j'en garde un souvenir très clair car je jouais dans le patio de la maison ce jour-là.
De memoria de cómo pasaron eso. Y de esa forma
j'avais 4 ans et à cet âge-là, on est comme une éponge. Je me souviens de la tension et de la peur qui régnait dans la famille.
Et la tension familiale, el sentido de temor de lo que estaba sucediendo. Bueno, cuando llegaron,
évidemment, les militaires ont débarqué chez nous brutalement
armas,
et ont commencé à fouiller la maison à la recherche d'armes.
Se sabe, ¿no? Pero en mí, por lo menos, yo veía nada más o sentía el temor de estas tres mujeres que me rodeaban.
Moi, je me souviens de la peur qu'éprouvaient ma mère et mes sœurs. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait.
Une anecdote, digo, es lo que
je me souviens de cette anecdote.
Obviamente, mi padre tenía, era policía,
comme mon père était policier, il possédait une arme.
Uno de los soldados encuentra munición, encuentra
pendant
balles,
la fouille, un des soldats a trouvé des munitions dans un bureau. Et lorsque les autres militaires ont fini de retourner la maison et qu'ils se sont retrouvés bredouilles, ils ont commencé à se comporter de manière violente.
Uno de los conscriptos, de los soldados rasos, de los soldados de
le soldat qui avait trouvé les munitions, qui était un simple subalterne,
la munición a mi
se tourne discrètement vers ma mère, lui tend les munitions et lui chuchote « Madame, cachez cela, sinon vous courez un grave danger. »
Muy peligroso.
Je m'appelle Victor Díaz-Caro. Je suis arrivé en France en 1992 comme mon réfugié politique parce que j'ai appartenu au groupe, une organisation politique militaire qui s'appelait Front Patriotique Manuel Rodríguez. Et on avait pris ces noms parce que Manuel Rodríguez était quelqu'un qui avait lutté à l'époque contre les Espagnols, à l'époque de l'indépendance du Chili, un patriote. Donc les noms du Front Patriotique, c'était Manuel Rodríguez. Et c'est une organisation qui a été créée le 14 décembre 1983 pour lutter contre la dictature d'Augusto Pinochet.
Era una escuela bastante particular, una escuela bastante alternativa.
J'étudiais dans un lycée un peu particulier, un lycée alternatif qui accueillait des enfants d'exilés,
de la intelectualidad burguesa,
des enfants de l'élite intellectuelle bourgeoise de la gauche chilienne.
Aquel día, lo primero que escucho es,
un jour, il s'est passé un événement grave au lycée.
Todo el mundo había escuchado disparos.
C'était le 30 mars 85.
Entonces, era muy, facile reconocerlos.
Tout d'un coup, j'entends des coups de feu. Tout le monde avait déjà entendu des coups de feu à l'époque au Chili, donc c'était facile à reconnaître. J'étais en compagnie d'une camarade de classe. Je lui dis que ce sont des coups de feu et elle se met à crier « Révolution !» Et
révolution. Y en ese momento comienza a cruzar un helicóptero.
Personne ne savait ce qu'il se passait. Et à ce moment-là, surgit un hélicoptère qui survole le lycée à très basse altitude. Et dans cet hélicoptère se trouvait le chef de l'opération, Luis Fontaine. Quelques minutes plus tard, c'est le chaos et l'incompréhension. Les élèves crient, courent partout, les professeurs ont peur.
Tout le monde est en une... une incapacité d'actuer parce que no se conocía.
Personne ne sait quoi faire parce que personne ne sait réellement ce qui se passe.
Et luego llegan
ensuite un groupe de professeurs vient nous voir, nous les terminales.
Nos explican lo que se acaban de llevar a
nous explique que les militaires viennent d'enlever le coordinateur Manuel Guerrero ainsi que le père d'un lycéen.
Et bueno, todo el mundo.
Donc une fois que le message est passé, tout le monde est resté en état d'alerte.
Ya sabiendo la situación.
Et finalement, deux ou trois jours plus tard, on apprend aux informations qu'ils ont été retrouvés égorgés. Ça a été un choc qui a confirmé mon engagement dans la lutte.
Dès les coups d'État, moi j'avais presque 15 ans et je voyais la violence, je voyais les gens qui étaient dans des camps de concentration au nord du Chili. J'ai grandi avec ça et je me disais, non, on doit faire quelque chose. Et on voyait les familles des gens qui avaient été arrêtés et qui sont disparus. Et tout ça, ça va faire grandir quelque chose dans beaucoup de jeunes qu'on ne pouvait pas accepter ça. Donc on a commencé à s'organiser, à récupérer des armes. Et voilà, il y a un moment qui... On a coupé la lumière dans tous les pays. Le Chili, c'est très long. Et on a coupé, c'était le 14 décembre 1983, et on a dit, le front est né. Et ça a pris. Hein. 300 après, 1986, il y a quelques milliers de gens qui participaient dans la lutte armée contre la tyrannie. Et au début, c'était quelques groupes qu'on appelait groupes opératifs. On faisait des petits sabotages contre l'armée, contre la police secrète de Pinochet. Mais il y a un moment, je dirais 86, quelques milliers de gens qui participaient dans les fronts patriotiques. Et les gens qui arrivaient, ils voyaient... qu'on pouvait faire tomber la dictature. C'est vrai qu'on était à l'époque un peu, je dirais même naïf, parce qu'on luttait contre un régime dictatoriel très sanguinaire.
Peut-être, Ricardo, on s'est connu au COEM, au comité des étudiants secondaires, parce qu'on faisait partie de ces groupes pendant la dictature. Mais on ne se rappelle pas, ni lui ni moi, hein, mais on a beaucoup, beaucoup d'amis en commun, je ne sais pas quoi. Donc, quelqu'un qui a fait des manifs avec moi, qui était là comme moi, à 14 ans, à dire « Oui, on va faire une manif hein, à l'école !» À l'école, au collège, on était des gamins, quoi. J'étais une militante assez jeune, à partir, on va dire, de la moitié des années 80. Et notre esprit, en général, c'était que les gens soient des centres-droites jusqu'à l'extrême-gauche. On était tous ensemble, on discutait, on se mettait d'accord, on se protégeait les uns aux autres. Arrivée la démocratie, bah, d'un seul coup, il y a eu des groupes qui étaient complètement exclus et d'autres qui ont eu en charge le pouvoir et l'administration, etc. Et donc, Ricardo, il faisait partie des exclus. Des gens qui ont été, bah, qui ont appris à se servir des armes, à faire des activités clandestines, etc. Et qui, bah, d'un seul coup, se sont retrouvés dans la vie où tu as plutôt droit de faire ce que tu veux, etc. Il n'y a plus besoin de tes services, idéologiquement parlant. Et ce sont les seuls moyens qu'ils avaient. Oui, il y en a qui se sont même détournés vers de la délinquance. Oui. Ce qui est très, très dommage. Parce que, en général, c'était des gens qui avaient beaucoup de valeurs, quoi. Une profonde amour de la démocratie, mais la société les a laissés de côté.
TF1, 1986.
Les symboles de la résistance armée sont partout sur les murs de la Victoria, célèbre población du sud de Santiago, où sont fortement implantés le Parti communiste et les combattants du Front patriotique Manuel Rodriguez, auteur de l'attentat manqué contre le général Pinochet, le plus puissant des groupes armés qui a emprunté son nom à un guerriero fameux de la guerre d'indépendance contre l'Espagne.
Ricardo, quand il rentre au Frente, il dit qu'en fait c'est des années merveilleuses, puisqu'il y a la sensation quelque part de lutter pour une cause juste, d'être au bon endroit au bon moment. Il y a aussi le côté aventure en fait qui joue un rôle, puisqu'il sort tout juste de l'adolescence, que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine à l'époque est très marquée quand même par les expériences cubaines, toute la mythologie du Che Guevara, par le Salvador. Il a la sensation d'être au bon endroit au bon moment, de participer à quelque chose de juste, de vivre une aventure collective très forte. Et donc il y a quelque chose d'assez grisant, je pense, là-dedans, dans toute cette aventure. Et puis le fait aussi, de manière un peu plus frivole, on va dire, qu'il y a pas mal de gens qui disaient que le fait d'être un guerriero, en fait, ça donnait une certaine prestance. Ça marchait bien avec les filles, il y avait un certain charisme qui était associé à l'image du guerriero. C'était cool, en fait, aussi, quelque part. C'est pas un engagement frivole, on décide pas de s'engager dans la lutte armée pour plaire aux filles, c'est sûr que non, mais ça joue peut-être un petit rôle.
« Journal TF1, 1986.
Le Chili, en état de siège. Le Chili où l'intense activité militaire et policière se déploie depuis ce matin dans les rues. Et ceci depuis l'attentat auquel a échappé le général Pinochet.
J'étais dans les groupes qui a fait l'attentat contre Pinochet et qui ont été arrêtés un mois et demi après. C'est pour ça que je passais 4 ans en prison.
Victor Diaz.
On a choisi un bon endroit, que c'est le chemin qui amène à une maison que lui il avait, qui partait tous les week-ends, juste à côté de Santiago. Et les communications, il passait pas très bien. Donc on savait que lui, il y avait un moment qu'il était coupé du monde. Et on a choisi l'endroit et c'était vraiment, on a fait une embuscade. On était 4 groupes de 5, on était 20. Et malheureusement, du point de vue militaire, on va dire que l'embuscade c'était très réussi. Nous, on avait réussi à stopper la caravane. On ne sait pas pourquoi, mais même des gens préparés, l'effet surprise. Et ils ne sont pas répondu comme des vrais militaires. Quelques-uns qui sont échappés, hein, qui sont sautés dans le vide pour échapper à la mort. Et malheureusement, Pinochet s'est déplacé dans des véhicules blindés. Et on n'a pas pu les tuer. T'sais.
Quand j'étais au front, j'ai surtout participé à des actions de sabotage. On s'est attaqué au réseau électrique, à des commissariats. Je peux vous raconter l'attaque d'un commissariat de carabineros. Il était 19h, on était en hiver.
Mon rôle était de faire couverture.
Moi, j'avais pour mission de couvrir un camarade qui devait jeter une grenade dans l'un des commissariats les plus répressifs de Santiago.
C'est
un souvenir un peu cocasse.
Et que mi compañero ingresa la granada en la caseta.
Mon compagnon jette la grenade par la fenêtre du poste de garde. Le policier qui était à l'intérieur la lui renvoie.
El policía al interior la devuelve. Mi compañero la agarra.
Mon compagnon la récupère et la relance.
Una granada dura 8-9 segundos.
Une fois dégoupillé, une grenade met 8 à 9 secondes à exploser. Ils se sont renvoyés la grenade comme une balle de ping-pong pendant 5 bonnes secondes jusqu'à ce qu'elle explose et que l'assaut commence.
En gros, le Parti communiste, au début, engage le Frente dans la lutte armée et puis du jour au lendemain, il décide qu'en fait, c'est la transition et qu'il n'y a plus de lutte armée. Et donc, il laisse un peu derrière eux toute une génération perdue à qui ils ont dit « engagez-vous dans la lutte armée » et qui, du jour au lendemain, se retrouvent un peu perdus, sans Dieu ni maître, avec des instructions, on va dire, contradictoires, et sans vraiment comprendre ce qu'il doit faire.
Et à quelle action il a participé, Ricardo, quand il est rentré au Frente ?
Au début, c'était des petites actions. Je crois que sa première action, c'est de mettre une bombe sous l'estrade d'un collège où le ministre de l'Éducation doit faire une allocution. Ensuite, il a participé à des camps d'entraînement le long de la côte pacifique. Et le reste de ses actions, en fait, lui a pas vraiment voulu m'en parler puisque c'était au moment de son... Mais en tout cas, il est accusé d'avoir participé à plusieurs meurtres de dignitaires pinochetistes, de membres de l'armée et donc de Jaime Guzmán, qui est l'idéologue du pinochetisme.
Fui detenido el año 1992. 25 de marzo.
J'ai été arrêté le 25 mars 1992.
Todo responde a también a al decaimiento del frente en aquel
tiempo. Tout a commencé quand le front a périclité.
Salí de una casa porque ya nos andaban.
De nombreux membres du front étaient déjà complètement acculés par la police.
Salí de una casa por la mañana el 25 de marzo.
Le 25 mars au matin, je sors d'une maison. Et je repère des mouvements suspects, des personnes qui n'étaient pas du quartier. Je change alors d'itinéraire et je monte dans un bus en pensant les avoir semés.
Bueno, y en el bus estaba cercado el barrio completo.
Mais le quartier était déjà complètement bouclé. Nous avions pris en filature depuis plusieurs mois, mes compagnons et moi. Une fois dans le bus, des policiers en civil montent.
Del asiento delante mío, se voltea una mujer con una pistola y me apunta
la femme qui était assise en face de moi sort un pistolet et le pointe sur ma tête. Ensuite, les policiers me tombent dessus et me sortent du bus.
Acusado de tres muertes.
Je suis donc arrêté en 1992. Et on m'inculpe de trois meurtres, d'une séquestration et de plusieurs autres délits mineurs.
Il est accusé jusqu'à aujourd'hui d'avoir tué des gens vraiment méchants qui ne méritaient pas de vivre. C'était des militaires, de la police secrète, des gens qui sont tués et torturés beaucoup de monde. Les tribunaux au Chili ne faisaient rien. C'était à liberté. Donc voilà. Nous, on a trouvé, après le plébiscite de 88, on voyait que ça ne changeait rien. Même des partis de gauche qui avaient été très, très, très frappés, qui ont perdu beaucoup de monde, qui ont assassiné beaucoup de militants, mais qui participaient dans des réunions avec la droite. Ils concoctaient quelque chose.
Soir 3. 1988.
Faire tomber le dictateur en utilisant les armes de la démocratie, les jeunes ont été les premiers à croire que c'était possible. Il y a encore un an, les communistes chiliens étaient partisans de boycotter ce plébiscite. Ce matin, le socialiste Ricardo Lagos s'emploie à calmer les impatients. Il faut ouvrir le dialogue avec les militaires. C'est Pinochet qui a été battu, pas l'armée.
90, quand il arrive, la démocratie avec Patricio Elwin, c'était un des promoteur du coup d'État de 73, et lui, il prenait le pouvoir en 90. Donc, on voyait qu'aucune plainte aboutissait contre les militaires. C'était des intouchables et vraiment des méchants. Donc, le Front Patriotique a fait une liste et on a communiqué la liste qu'on allait faire justice au nom du peuple.
Dans cette liste, il y avait aussi Jaime Guzmán, non?
Il était numéro 1. C'est lui qui a fait la constitution des 80, qui, jusqu'à aujourd'hui au Chili.
Et c'était qui, Jaime Guzmán?
Jaime Guzmán, c'était un idéologue, comme un gourou personnel pour Augusto Pinochet. Et Opus Dei, c'était l'éminence grise de la dictature.
Comment s'est passé votre procès au Chili?
Desde ese día, que recuerdo fue un miércoles tal vez, estuve 11 días.
À partir de ce mercredi 25 mars, je reste 11 jours enfermé dans une cellule clandestine de la police.
Yo no sabía quién me había detenido.
J'ignorais totalement à ce moment-là qui m'avait arrêté.
Los 11 días, bueno, 8 o 9 días.
Et je suis resté menotté et cagoulé pendant ces 11 jours. J'ai été frappé et torturé.
Comienzan los procesos con los diferentes.
Ensuite, je suis passé devant plusieurs juges.
Estuve,
comme j'ai refusé de plaider coupable, j'ai été placé en cellule d'isolement pendant 28 jours et je n'avais le droit de sortir que 5 minutes par jour pour aller aux toilettes.
Para salir al baño por cada día. Luego de ese proceso,
suite à cela, on me transfère 3 mois dans la prison de San Miguel.
Entonces deciden dejarme en un área que es el área de los enfermos psiquiátricos.
Dans une zone qui est réservée aux détenus psychiatriques.
Me llevan a la cárcel, me trasladan a la cárcel de San Miguel, ese era el nombre. Y ahí me aíslan.
Puis on m'enferme encore pendant 6 mois dans une cellule d'isolement, dont je ne pouvais sortir qu'une heure par jour.
Durante 6 meses. Logré pas, bueno, no es que la,
hubo j'ai fait plusieurs tentatives d'évasion, mais elles ont toutes échoué.
Que fueron vanos, o sea, no sirvieron. Y en ese proceso comenzó la construcción de otra cárcel que se llamaba la cárcel de alta seguridad. Y luego los últimos dos años
enfin, j'ai passé mes deux dernières années d'incarcération dans la toute nouvelle prison de haute sécurité, irlandaise. qui avait été construite sur le modèle irlandais. Une prison totalement infranchissable.
Una respuesta a la pregunta anterior que no te di fue que,
par rapport à votre question précédente, je tiens à préciser que j'ai été condamné à deux peines de réclusion criminelle à perpétuité et à 45 ans d'emprisonnement supplémentaire en seulement 6 mois. Voilà le type de procès expéditif que pouvait mener cet appareil judiciaire hérité de la dictature. C'était une justice d'extrême droite.
Vous et Ricardo, vous étiez tous les deux allés en prison. C'était quoi la vie en prison? Comment les tortures, les sévices étaient?
Non, en général, et à l'époque, je vais dire 86 jusqu'au 90, en prison, il n'y avait pas de torture, on ne va pas mentir. Mais on arrivait très, très torturé en prison. Quand on était arrêté, bien sûr, tout le monde y passait avec la police secrète, des gens 15 jours. La loi, il permettait 15 jours qu'ils étaient torturés avec électricité. Et quelques-uns, des hommes violés, parce qu'il y avait des mecs, c'était des... Comme je disais tout à l'heure, c'était pas des gens, c'était des... J'ai pas utilisé le... C'était des fils de pute, c'est tout. Des malades.
C'était Ricardo Palma Salamanca, évadé à vie, avec Victor Diaz, Maria Paz Santibáñez, Arthur Gian, Ricardo Palma Salamanca, traduit par Lara Alkelani. Archivina Denis Forger, coordination Christine Bernard, avec Sylvia Favre. Prise de son Hervé Dubreuil, Benjamin Regis. Un documentaire de Felipe Camacho, réalisation François Test.